25 au 28 janvier 2024, l'association Écologie au quotidien organisait ses 22e rencontres de 10 intitulées « Agir pour le vivant ». Erdiwa était convié à prendre la parole de quelques intervenants présents lors de ces 4 journées. Nous sommes en compagnie de Camille Etienne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes militante écologiste et auteure de « Pour un soulèvement écologique ». Et à côté de vous, Nicolas Herringer. Bonjour.
Bonjour.
Directeur associé des partenaires de l'ONG 350.org. Vous pourriez expliquer rapidement ce qu'est cette association. Et donc, vous êtes ici pour votre présence qui a eu lieu ce week-end du 25 au 28 janvier 2024 à 10, dans le cadre de l'écologie au quotidien et Agir pour le vivant, un festival des rencontres de 10. Et donc, vous êtes ici parce que vous avez participé aussi à un débat sur le soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective. Alors, on peut partir de votre livre, Camille Etienne, pour un soulèvement écologique. Il s'agit d'ailleurs de dépasser notre impuissance collective. Qu'est-ce que vous définissez pour l'impuissance collective ?
Ben, je dirais que c'est un peu ce sentiment que tout est vain, enfin, que la chose publique nous échappe et qu'on est... qu'on serait condamné comme ça à devoir vivre des conséquences climatiques et d'un effondrement de la biodiversité totale sans rien jamais pouvoir y faire, alors que j'essaie de prouver dans le livre qu'on a une capacité d'action qui est grande, qu'on peut obtenir des victoires, qu'on peut se battre et que chaque demi-dixième de degré cache des vies humaines et non humaines et que donc, en ce sens-là, il nous est permis d'espérer.
L'impuissance collective s'appuie est une conséquence de quelle politique, selon vous ? On peut parler d'ultralibéralisme, de néolibéralisme ?
Je dirais que c'est... On a souvent cette idée d'inaction climatique et j'essaie de montrer que c'est en rien une inaction, c'est-à-dire que c'est une action délibérée de maintenir un statu quo dont on sait qu'il détruit les conditions de vie sur Terre. Donc il y a un modèle extractiviste qui a ce besoin viscéral de toujours aller extraire des ressources qu'on sait non renouvelables et limitées, pas, et qu'on décide d'extraire de manière totalement illimitée. Donc il y a cette croyance, cette foi dans l'illimitisme qui est très dangereuse, qui est assez sinistre, très concrètement.
Il y a aussi le soulèvement écologique. Et là, vous mettez un point important, c'est de le dissocier du soulèvement climatique. Pour vous, vous dissociez ces deux choses-là, hein ?
En fait, c'est juste que le mot écologique est plus large pour moi, en tout cas. C'est que la question climatique, ce qu'on vit a été beaucoup résumé uniquement à la question climatique. Déjà, il y a bien sûr l'effondrement de la biodiversité qui est non pas moins terrifiante. On est en train de perdre des espèces à un rythme effréné. On est en train de vider l'océan de vie. Hein. Il y a un océanographe qui s'appelle Daniel Pauly qui parle de guerre qu'on a déclarée aux poissons. Et tout ça est très lié. C'est-à-dire que, évidemment, l'effondrement de la biodiversité ne nous arrange pas plus de par le fait que nous dépendons littéralement pour notre existence de cette biodiversité, que nous en sommes aussi, que nous faisons partie, qu'on est une espèce d'amas de bactéries uniquement. Et que de la même manière, on sait aussi que le dérèglement climatique est une des causes très grandes de cet effondrement de la biodiversité. Donc l'un et l'autre viennent de se renforcer. Et parce que aussi dans le mot écologie, il y a la manière d'habiter le monde entre espèces. Et que j'ai pas envie d'une politique climatique qui serait celle d'aller sauver des dauphins mais de laisser mourir des migrants dans la Méditerranée.
C'est en étudiant aux sciences politiques à Paris que vous avez pris conscience de cette crise, selon vous, cette crise écologique. Et vous vous impliquez déjà dans le militantisme avec Amnesty International, pour commencer. Mais aussi, ensuite, vous avez participé au mouvement On est prêt. Et là, vous êtes intervenu au Parlement européen. C'était déjà votre premier engagement, votre premier acte.
Mon premier acte comme au théâtre a été plutôt sur la question de la délinquance juvénile, ce qu'on appelle donc les jeunes placés en foyer. Et c'est la première association, je pense, à laquelle réellement je suis allée. C'était sur le camp de Calais. Donc c'est sur un autre sujet qui malheureusement est aussi très lié. Et la question environnementale est venue un peu plus tard, est venue dans les études supérieures. J'étais très sensible à ça déjà aussi, mais bizarrement, je pense que de vivre dans un endroit qui était très préservé, j'arrivais pas totalement à imaginer que nous puissions menacer cet endroit. En haute montagne, on se sent particulièrement misérable, donc l'imaginer que nous étions en train de menacer directement la montagne et tout ça, j'avais peut-être moins de capacité à sentir qu'on pouvait inverser la tendance.
Vous êtes né justement en Rhône-Alpes, hein, en région Rhône-Alpes, à Grenoble précisément. Vous avez vu depuis votre naissance des bouleversements, des changements?
Je dirais qu'on me les a surtout racontés, c'est-à-dire qu'on voit des témoins du passé, par exemple, dans des photos de mes grands-parents qui sont sur un glacier. Ce même glacier, aujourd'hui, il faut marcher d'une heure et demie de plus pour accepter à la première moraine. Accéder à la première moraine, donc il y a ça on le sent et on le voit parce que les glaciers, c'est par essence même le symbole, en fait on avait fait le symbole du dérèglement climatique, c'est très visuel, une surface blanche qui l'est de moins en moins, donc c'est extrêmement visuel. On voit les hivers qui se retardent, on voit qu'on a de plus en plus besoin de neige artificielle pour maintenir des conditions dans les stations de ski, etc. Donc on voit aussi la montagne qui devient de plus en plus dangereuse parce qu'il y a le permafrost qui fond et donc des blocs de glace et de rochers même qui se détachent, la montagne qui s'effrite. Donc je dirais que je l'ai vu aussi surtout par les récits, par comment c'était avant.
Et puis il y a cette présence à opérer, selon vous, occuper l'espace également. Pour cela, vous avez créé avec Solal Moisan Avant l'orage, et qui permet ensuite justement de propager un peu cette parole que vous portez. Comment vous est venue cette idée? Est-ce que c'est une évidence justement de cette occupation de l'espace qui est en général tenue par le libéralisme actuellement, hein?
Je ne sais pas si on avait pensé qu'on allait occuper l'espace, mais en tout cas, l'idée, c'était plutôt d'utiliser l'art. Alors, c'est un grand mot, mais en tout cas, d'utiliser l'art libre, c'est-à-dire qu'on rendait totalement accessible et gratuit par les réseaux sociaux, par des moments où on utilisait la danse dans des actions, etc. Et donc, je crois que c'était plutôt une posture que de dire que si on prétend défendre le beau, on n'a pas besoin de s'en couper aussi dans la manière dont on le défend.
Alors, vous passez par divers modes d'expression, que ce soit la vidéo, la danse également.
Oui.
Et pour ça, vous associez des artistes qui, je pense, éprouvent les mêmes sentiments que vous sur cette nécessité, cette urgence.
C'est un mode de fonctionnement qui est différent pour eux. En tout cas, il y a l'idée du corps et l'expression par le corps. Moi, je suis plutôt très cérébrale. Et pour autant, je me rendais compte que certains étaient touchés dans d'autres endroits. Quand on en parlait avec des neurologues, notamment pour un film qu'on a fait qui s'appelait « Pourquoi on se bat », ils nous expliquaient bien que si moi, je peux être bouleversée par le récit de quelqu'un, intime de quelqu'un qui a vécu, qui vit dans une île qui va disparaître, qui vivait en Belgique au moment des inondations, etc. Ça va suffire à mettre en mouvement. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui ont besoin d'aller toucher dans quelque chose qui peut être vécu comme plus subtil ou qui passe par le mouvement, par le corps, par la musique, par quelque chose de plus sensoriel, et que c'était reconnaître qu'il y a différentes qu'il y a différents types de personnes qui vont être mis en mouvement, mis en action par différentes choses, et que utiliser ça, pour moi, ça permettait d'aller toucher d'autres personnes qui pourraient s'être un peu coupées aujourd'hui de l'action climatique.
Pour un soulèvement écologique, c'est un livre qui vous a pris combien de temps pour pouvoir le rédiger? Il est doté d'énormément de documentation. Vous avez dû passer un grand moment de recherche. C'est aussi dû à votre formation d'étudiante en sciences politiques qui vous facilite un peu cet aspect.
En réalité, j'ai surtout mobilisé des connaissances que j'avais avant Donc je demandais tout le temps je posais tout le temps cette question à ceux qui écrivaient au moment de le faire en me disant mais combien de temps ça prend, pour me rassurer, en me disant mais est-ce que ça va me prendre toute ma vie pendant 6 mois ou est-ce que... Et on me disait toujours ah ça dépend, en réalité tu le matures dans ta tête pendant un moment puis après ça devient une urgence et tu l'écris assez vite ou inversement. Et donc en fait je fais cette même réponse qui m'insupportait, c'est que j'ai signé au seuil 2 ans avant. Mais je n'étais pas prête. Et une fois que j'ai senti que c'était un besoin viscéral de le faire et que ce n'était pas un caprice, bon, bah, c'est allé relativement vite.
Alors, justement, toutes ces sources-là, comment vous vous y êtes attelé pour les rechercher?
Je sais pas, c'est des lectures que j'ai eu la chance de tomber dessus par plein de manières différentes, soit par l'école, soit par des gens que j'en ai entendu parler dans des mouvements militants. Beaucoup avec mes amis, on se fait beaucoup de conseils de ce qui nous a plu, ce qui nous a bouleversé ou pas, qu'est-ce qui est intéressant à aller chercher. Et je faisais aussi cet effort d'aller chercher, j'essayais en tout cas, dans des endroits où des auteurs, des autrices qui ne parlaient pas forcément d'écologie, mais qui avaient une autre approche aussi, pas mal d'anciens et d'anciennes, pour convoquer des monuments, donc rassurer peut-être aussi ceux qui sont moins ouverts à des nouvelles pensées. Et montrer qu'en fait, on retrouve chez Kant des choses qu'on défend aujourd'hui, qu'on retrouve chez plein d'anciens penseurs, principalement. Et aussi parce que ça me permettait de montrer qu'on s'inscrit dans une histoire et que donc, en fait, je continuais plus cette histoire qu'on réinventait quoi que ce soit.
Qui peut faire l'histoire Tous ?
Je crois, j'espère que tous peuvent faire l'histoire. Elle n'est pas... L'histoire dominante, elle est principalement portée par ceux qui dominent, mais... Je ne crois pas beaucoup à un sens de l'histoire. Je pense qu'au contraire, on l'infléchit toujours par notre existence dans un endroit ou dans un autre. Donc, dès qu'on fait ou dès qu'on ne fait pas quelque chose, c'est l'effet papillon. En fait, on va décider de mettre dans des rails ou de faire dérailler. Donc, on participe tous à l'histoire, en tout cas.
Et qu'est-ce qui fait le lien, justement, de l'individu en une entité, un groupe, pour pouvoir agir ? Est-ce que vous avez pu observer
cette
constitution ?
Alors, le lien entre l'individu et le groupe, c'est des espaces, c'est des endroits, c'est des interdépendances invisibles aussi, c'est l'histoire de la mondialisation et de la fracturation des chaînes de production qui fait qu'il devient de plus en plus invisible, ce lien. Notamment là, en ce moment, l'actualité des agriculteurs, des agricultrices le montre très bien, c'est-à-dire que c'est aussi, de ce que j'entends, une lutte pour que ce lien soit plus direct pour qu'on se rende compte que ceux qui produisent, en fait, derrière quelque chose qui arrive dans notre assiette, ont des vies qui sont parfois ravagées par une agriculture industrielle, ont des vies qui sont pressurisées par une chaîne de valeur qui s'étend, qui s'étiole.
Nicolas Héringer, pareil, hein, par rapport au partenariat de l'ONG 350.org, c'est le lien aussi qui vous unit. Il y a un dénominatif commun.
Oui, c'est ça, c'est l'idée que... En fait, le changement dont on a besoin, qui est quand même d'une ampleur sans précédent, il n'adviendra que par les mobilisations sociales, que par le pouvoir citoyen. Et donc, l'idée, c'est effectivement de reprendre un peu le contrôle, de reprendre un peu d'ouvrir des interstices, d'ouvrir des espaces dans lesquels on peut reprendre le contrôle sur des choix dont on a été très largement dépossédé, à la fois par des politiques, comme on l'évoquait, mais aussi tout simplement par ce sentiment d'impuissance, par cette idée qu'on fait face à des défis qui sont trop importants, qui sont trop gros, qui nous dépassent complètement. Et donc, il faut commencer à réapprendre, en fait, à se dire que oui, on peut peser sur le cours des choses. Et au fur et à mesure, c'est comme un entraînement, quoi. Je sais pas, en montagne, quand on prépare une course, on se prépare, on s'échauffe, on s'entraîne et ensuite, on part faire sa grande ascension. Voilà, c'est un peu la même chose.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5,
101.7,
FM.
Il y a Internet qui permet justement de pouvoir propager un peu cette parole. Il y a donc ce Avant l'orage dont vous avez créé un site également qui permet de découvrir un peu toutes vos actions et vos propositions à venir, j'imagine. Pour cela, on regarde, en regardant toutes ces vidéos, ce travail, je me dis il y a énormément de moyens quand même pour mettre en page ces animations, ces vidéos. Et pour cela, vous avez des coproductions comme Echo Studio. qui a produit énormément de films écologistes, dont le directeur est issu de Disney Nature. Donc, ce que je m'interroge aussi, c'est qu'il y a aussi des grands groupes qui se mettent aussi peut-être à propager et à prendre conscience ou à amener cette conscience au public.
Alors, c'est un individu en rien... Ecostudio aujourd'hui a des liens avec Disney, c'est justement quelqu'un qui a quitté Disney pour monter quelque chose de plus à taille humaine. Donc il n'y a aucun lien avec cette plateforme. Je dirais que ça demande des moyens. En fait, c'est une forme de contre-espace, je dirais, d'information. Donc, en dehors des médias traditionnels, donc ça demande une économie qui est grande. Surtout quand on le fait de manière gratuite, l'information, elle n'est pas gratuite à produire. En tout cas, à produire, c'est pas le bon mot, parce qu'on produit pas vraiment une information, on la transmet. Mais ce canal-là demande, surtout quand on est exigeant, nous, artistiquement, on essaye de faire des choses propres, bien tourner, d'y prendre du temps, et tout ça a un coût. Donc, Ecostudio, c'était uniquement pour un long métrage, un film qu'on a fait, qui était sur TV5 Monde Plus. Donc, on voulait que ce soit sur le service public et que ce soit disponible gratuitement dans plein de langues. Et après, tout le reste, on le fait seul, principalement. Et on le fait avec, c'est principalement des dons, en fait. C'est même exclusivement des dons qui nous permettent aujourd'hui, sur Avant l'orage, qui nous permettent de produire tout ça.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des groupes industriels qui peuvent aussi avoir un avis sur l'avenir de l'écologie et prêter main forte à cette cause.
Oui, après, les groupes industriels font quand même plutôt partie du problème. S'affronte encore beaucoup à eux. Ils essayent souvent, enfin là, c'est effectivement pas le cas, mais il y en a beaucoup qui essayent de verdir leur image, d'utiliser, de prétendre qu'ils lavent plus vert que vert. Et une partie de ce qu'on doit faire, c'est précisément s'attaquer aussi un peu à ce contre-récit, à ces mensonges, en fait, qui leur permettent de préserver le cours habituel des choses. Et les vidéos, les mobilisations sur Internet, en fait, effectivement, ça demande des moyens, mais des moyens qui sont en fait bien inférieurs à ceux dont disposent ces groupes, mais qui nous permettent quand même de percer un peu le plafond de verre. Il y a quelque chose d'assez fascinant là-dedans, c'est que ces nouveaux outils qui ont plein d'effets négatifs, qui ont plein de limites, permettent quand même aussi de venir gripper un peu le récit auquel on s'oppose et permettent aussi, et moi je pense que c'est ça le plus important, à des personnes qui ne savent pas comment s'engager, qui ne savent pas par où débuter, qui ne savent pas comment faire ou qui n'ont pas envie en fait, parce que rentrer dans une organisation, a fortiori dans un parti politique, mais même dans une association, ça demande du temps, ça demande de l'argent, on ne sait pas trop faire, c'est un peu angoissant, etc. Et bah, grâce à des vidéos, grâce aux réseaux sociaux, grâce à des personnes comme Camille et d'autres, en fait, on peut se mobiliser très rapidement, très simplement. On l'a vu il y a 3 semaines maintenant, là, avec ce que Camille a fait en Norvège. Sur l'extraction minière en haute mer. Je pense que si c'était une ONG qui avait piloté cette campagne, ça aurait été une campagne à, je ne sais pas moi, 500 000 euros de moyens qui auraient été mis pour organiser des concerts, des manifs, essayer éventuellement d'avoir une page de pub dans l'équivalent du Monde ou de Libération norvégien pour un résultat qui n'aurait pas été le même. Là, avec 3 bouts de ficelle, j'ai envie de dire, un voyage en train et quelques vidéos bien tournées, et bah, en fait, le gouvernement norvégien était contraint de céder. Donc il y a une force réelle de ces mobilisations-là.
Et elle s'appuie aussi toujours... ce que c'est qui est assez génial, c'est qu'elle s'appuie aussi sur des structures plus grandes. En fait, c'est aussi parce qu'il y a des organisations comme 350, comme Greenpeace, comme d'autres, qu'on va être complémentaires. C'est-à-dire qu'eux vont être là quand il y a besoin de plus de long terme, besoin d'un paquebot, en fait, aussi. Et qu'on peut arriver avec, peut-être, nous, une culture plus de plus mouvante, plus de l'urgence, plus d'être capable de saisir du réel assez rapidement, d'avoir cette dialectique entre les deux. Donc, ça qui est intéressant.
Camille, Étienne, à 5 ans, une phrase vous est arrivée aux oreilles. « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». C'est une phrase qui vous a marqué?
Alors, je ne crois pas que je me souviens de ça quand j'avais 5 ans. Ce qui est sûr, c'est que je sais, à part théorie, qu'en tout cas, elle a marqué, pas que moi, en tout cas, qu'elle a structuré beaucoup de discours et de visions de l'écologie. Et c'était assez désolant de voir, et nous regardons ailleurs. Et ben, en fait, aujourd'hui, ce n'est pas seulement qu'on regarde ailleurs, c'est qu'on voit que ça brûle et qu'on décide de détourner le regard. Et le on, ce n'est pas un on global, c'est un on du côté des puissants.
Bien sûr. Et pour cela, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui si on devait transformer cette phrase ?
Eh ben, je dirais la métaphore que je fais dans mon livre, qui part de cette phrase, qui est de dire certains ont mis le feu, mais ils le regardent brûler depuis une tour dorée et ils s'amusent de voir que le feu peut permettre de juste les réchauffer et d'avoir cette incandescence qu'ils n'ont pas forcément. Et donc, c'est presque une esthétique du feu. Quand d'autres sont là, dans les flammes, à devoir essayer à main nue de boucher un peu les trous par lesquels elles rentrent, et qu'on a plusieurs choix face à ça, c'est qu'on peut soit essayer d'aller péter la porte de la tour dorée, de monter à leur place et de leur faire éteindre le feu. On peut essayer de s'organiser en dehors de ce feu, trouver des endroits, des brèches où on peut le fuir. Donc c'est Corinne Morel-Darleux qui en parle très bien dans « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce ». Elle en parle aussi dans son autre livre sur « Déserter ou pas déserter » et comment les deux sont importants, en fait, sont dans des endroits différents qui se répondent.
Un aspect aussi de ce combat que vous menez, c'est parfois, est-ce que face à peut-être à un échec, je ne sais pas si vous en avez subi dans votre parcours, mais est-ce que des fois le doute arrive, il y a aussi peut-être cet abîme d'aller vers l'avant, est-ce que ça, ce sont des phases qui vous arrivent et qui peuvent arriver à d'autres aussi, je pense.
Ouais. Ouais, non, moi qui suis le doyen autour de la table, moi j'ai perdu plus souvent que j'ai gagné, hein. Enfin, ça c'est clair. On passe beaucoup de temps à perdre. Après, la question c'est est-ce qu'on arrive à faire de la défaite un stade vers une victoire ? Et encore, on en parlait justement lors de la conférence l'autre jour, les victoires ne sont que partielles aussi, mais je pense qu'une partie du dépassement de ce sentiment d'impuissance, c'est de peut-être aussi accepter de faire le deuil de cette idée de grand soir, de ce moment où on aurait gagné une bonne fois pour toutes. Nous, en fait, c'est des choses qu'on on est pris dedans pour toujours, quoi. C'est un peu notre destin de faire ça. Donc parfois, on perd. Très souvent, on perd, en fait. C'est Daniel Ben Saïd qui disait ça. On perd, on connaît plus de petits matins et de défaites que de victoires, mais grâce à la ténacité, grâce à l'opiniâtreté, grâce aux rencontres, grâce aux personnes avec lesquelles on milite, on gagne ce droit incroyable de recommencer. Et on recommence et on continue.
Camille Etienne, vous œuvrez pour un soulèvement écologique. Ce mot soulèvement a posé une polémique ces derniers mois, notamment avec le soulèvement de la Terre. Est-ce qu'on peut les associer, ces mouvements, ce concept entre vous et ce mouvement ?
C'est un mouvement que je soutiens, évidemment, et que j'ai soutenu surtout au moment de la dissolution et un peu avant. Et il m'arrive de participer souvent à leur action. Malheureusement, quand j'avais commencé le livre, c'était pas un mouvement que je connaissais encore, vraiment, donc c'était pas du tout en lien avec eux. J'ai eu la chance que ce soit le cas au moment de la rédaction de ma conclusion, donc j'en parle un peu dans ma conclusion. C'est pas du tout structurant pour le livre. Mais c'était le mot soulèvement, moi c'était en référence à la Boétie. En gros, ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux, alors on se soulève. Donc c'était plus sur ça, c'était plus sur l'idée de rester debout, droit, et de ne pas se laisser écraser. Donc c'était ce type-là de soulèvement. Mais je crois que ce qui s'est passé avec les soulèvements de la Terre était, et est toujours d'ailleurs, très puissant, parce qu'ils ont réussi à mettre en lien, mettre un éclairage national, même voire international, sur des luttes locales, de territoire, se battre contre l'agro-industrie, inverser des traitements médiatiques de sujets, mettre en lien de l'action directe, du désarmement, avec des ONG qui vont être plus dans une logique de campagne et tout ça. Et ils ont réussi à rassembler plein de gens autour de la table. Donc je pense que c'est un mouvement très, très puissant et qui va continuer de l'être. J'espère, je le souhaite en tout cas.
Et d'ailleurs, nous avons tous ressenti hein, cette radiation de soulèvement de la Terre en France. Cela veut dire quand même qu'il y a eu, en quelque sorte, un premier faux pas du pouvoir face à ce concept qui fédère énormément de gens.
Quand on doute, quand on se dit qu'on perd, qu'on ne sert pas à grand-chose, c'est toujours utile de regarder comment réagissent les adversaires. Et là, clairement, il y a une peur panique, quoi. Ils étaient sans mauvais jeu de mots, terrorisés, à tel point qu'ils ont traité les soulèvements de la Terre et leurs animateurs d'éco-terroristes. Et c'est toujours une bonne manière de se rendre compte de sa propre puissance, parce que souvent, on est dur avec nous-mêmes dans les mouvements. Et donc, oui, moi, je pense que c'est peut-être un faux pas, mais c'est surtout un aveu de peur panique du pouvoir, et donc aussi qu'il faut prendre comme un aveu de faiblesse, et un aveu de faiblesse qui doit nous réjouir. C'est-à-dire qu'en fait, on a la capacité, effectivement, à potentiellement faire bouger les choses.
Camille Etienne, j'imagine que vous avez un calendrier bien rempli hein, pour le temps à venir. Est-ce qu'il y a peut-être des choses que vous auriez envie de mettre en avant sur ces prochains rendez-vous ?
Bonne question. J'ai mes rendez-vous égoïstes qui sont évidemment les combats qu'on va mener. Là, il y a des grands rendez-vous sur l'exploitation des fonds marins. Encore et toujours, dans la semaine, là, cette semaine, on a une résolution qui est votée au Parlement. Et je viens d'apprendre hier qu'ils ont envoyé une grande délégation là, de lobbyistes, le gouvernement norvégien. Donc on va avoir besoin d'essayer d'inverser ça, donc d'inverser la pression. Donc en fait, c'est toujours délicat parce qu'il y a plein de mouvements qui naissent, il y a plein de sujets, il y a toujours plein de sujets, mais qu'en fait, le moment où on maintient une pression médiatique, politique, populaire, en fait, c'est ce qui permet de ne pas flancher. Donc on va vraiment avoir besoin de monde là encore. Après, il y a des rendez-vous à... Si vous avez l'occasion et la possibilité d'y aller, il y a un rendez-vous autour de l'A69 entre Toulouse et Castres le 10 février, le 11 février à Bordeaux contre Vermillon, qui est une entreprise canadienne qui veut ouvrir 8 puits de pétrole dans la Teste de Buch, donc dans le bassin d'Arcachon. Donc il y a des mobilisations un peu partout. N'hésitez pas à suivre les différents groupes et puis vous serez forcément tenus au courant.
Et il y en a quelques-unes qui ne sont pas très loin du Diois. Il y a Saint-Péret, un projet de contournement routier. Il y a à Villard-de-Lans, les projets de Tony Parker qui a racheté la station de ski. Il y a évidemment les JO d'hiver. Alors, je ne sais plus si c'est 2026, mais les JO de Vauquier et Muselier. Et puis, au printemps, il y aura un rendez-vous sur le glacier de la Gironde, au-dessus de la Grave, pour réussir à bloquer le projet d'aménagement d'un troisième tronçon du téléphérique.
Camille Etienne, pour appeler le citoyen, la personne, vers un soulèvement, qu'est-ce que vous pourriez dire pour les inviter ?
Pour inviter à se soulever, je dirais qu'il suffit de regarder autour de soi. En fait, il n'y a pas besoin de choses très grandes. C'est-à-dire que partout où on pose le regard, il y a une injustice et une raison une raison de se battre. En fait, c'est aussi simple que ça. Et donc, je dirais qu'apprendre à regarder et à poser le regard d'abord, avoir une pensée d'abord pour celui ou celle qui a un genou à terre et se dire comment est-ce qu'on participe à faire partie de la solution et pas du problème. C'est ça, en fait, se soulever.
Et puis, donc, il y a ce site, hein, avant l'orage, on peut découvrir tout ce que vous faites et puis certainement les corrélations indiquées à l'intérieur du site. Et puis, pour Nicolas Héringer, cette organisation donc, qui s'appelle ONG350.org, cette origine de nom, que signifie-t-il ?
Donc 350, c'est le taux de concentration de CO2 dans l'atmosphère, donc c'est des par million, et c'est le taux de concentration de CO2 dans l'atmosphère qui correspond à un réchauffement de 1,5 degré. On est à 417, 418 par million actuellement, donc il faudrait revenir à 350. C'est possible hein, de le faire. En sachant par ailleurs que 1,5 degré, c'est une barre symbolique qui avait été fixée un peu politiquement, plus que scientifiquement, comme le seuil de sécurité climatique. On est aujourd'hui à un réchauffement de 1,1, 1,2 degrés. Enfin, Rhône-Alpes, c'est plutôt plus 2 degrés. Et on voit en fait que c'est déjà la catastrophe absolue. Donc que le seuil de sécurité, il est bien inférieur à 1,5 degré, qui se situe plutôt entre 0 degré de réchauffement tout simplement et 1 degré. Donc ça ne doit pas nous inhiber, ça doit au contraire décupler notre volonté d'agir, parce qu'effectivement, chaque dixième de degré compte, et chaque part par million qu'on arrivera à soustraire de l'atmosphère par les luttes, par les mobilisations, compte énormément.
Et avant l'orage, Camille, qu'est-ce que vous voulez amener dans ce titre, dans ce nom ?
Avant l'orage, c'est juste l'idée d'avant l'orage, c'est-à-dire que quand on sent un peu l'électricité dans l'air et ce moment où on ne sait pas si ça va, on ne sait pas ce qui va advenir, on ne sait jamais quand l'orage advient, comment il advient, est-ce qu'il advient. mais il y a plus cette électricité dans l'air, cette, cette excitation, ce moment un peu fébrile et vertigineux. Et c'est un sentiment, c'est un moment que j'aime beaucoup. Et donc voilà, c'était juste que c'est un état météorologique que j'adore. Et donc je voulais qu'on en parle.
Camille Etienne et Nicolas Héringer, je vous remercie tous deux d'être venus sur Air du Bois pour nous parler de votre action et de vos engagements, et notamment Camille Etienne pour votre livre « Pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective » aux éditions du Seuil, et puis Nicolas pour votre organisation 350.org. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.